Ce matin, nous avons parlé du fil rouge du plan de Dieu, les généalogies, contrairement à certaines attentes peut-être. C'est comme ça. Maintenant, deuxième partie, j'aimerais vous montrer que dans Genèse 1 à 11, on peut trouver déjà plein de choses. Le plan de Dieu en creux. En creux, ça veut dire que ça n'est pas explicite, c'est plutôt implicite. Mais on va voir que, vous savez, vous avez parfois des choses en creux, et il y a une forme qui se dessine. Et là, on va voir qu'il y a certaines choses qui, pour certains, sont propres au Nouveau Testament, sur Christ, etc., qui sont déjà, qu'on relie à la lumière de ce qu'on sait, grâce à la venue de Jésus, présentes implicitement dans le texte. En fait, Genèse 1 à 11, ne faites pas attention à Marion, c'est comme l'ouverture d'une symphonie. Vous savez, par une symphonie de Wagner, ou un opéra de Wagner, disons, un opéra de Wagner, je suis nul en musique, mais au moins je sais qu'il présente dès le départ un certain nombre de thèmes musicaux qu'il annonce, des petites phrases musicales, des mélodies, et qui vont revenir. Il suffit qu'on appelle ça des leitmotivs. Et c'est déjà présent dès le départ dans l'ouverture, vous avez tout. Ensuite, il va le déployer pendant toute l'œuvre. Et bien, dans la Genèse, c'est exactement ça qui se produit. Alors regardons ça de plus près. J'ai disposé sur cette diapo les principales étapes du texte de Genèse 1 à 11. Vous voyez, j'ai mis des petits pastilles, la création, Éden, c'est-à-dire le récit de la chute, la création et de la chute, les trois fils d'Adam, hein, je vous ai bien cité ce matin, chapitre 4, c'est une unité, une petite généalogie en trois étapes, les trois fils d'Adam. Généalogie d'Adam, version longue, on l'a lu ce matin dans Genèse 5. L'épisode des fils de Dieu, qui interpelle certains d'entre vous, et c'est normal parce que c'est difficile. Le déluge, les trois fils de Noé, à partir desquels il y a un repeuplement. La tour de Babel et la dernière généalogie, celle de Sem. Et vous voyez que ma disposition n'est pas vraiment innocente. J'ai présenté les choses en deux colonnes en quelque sorte, et j'ai laissé beaucoup de place entre les deux. Alors on va essayer de remplir cet espace. Je vais essayer de vous montrer qu'il y a une progression parallèle des deux côtés. Et ce n'est pas juste pour montrer que c'est joli, c'est parce qu'il y a un message derrière, et j'irai presque jusqu'à dire que c'est le message principal de cet ensemble. Donc, autant on a vu la charpente ce matin, comment c'est structuré, le fil rouge, autant on va essayer de voir la structure, le plan vraiment global de Genèse 1 à 11. Et c'est très significatif, je pense. La première chose qu'on va essayer de remarquer, c'est un lien entre la création et le récit du déluge. A priori, il n'y a pas tellement de ressemblance entre les deux. Création, Dieu crée les choses, il dispose, etc. Les six jours plus un pour se reposer. Bon. Le déluge, il envoie la pluie sur la terre, tout se recouvre, etc. En réalité, si on se penche sur les termes qui sont utilisés, alors on va observer le texte, puisqu'on fait ça au GBU, si on se penche sur les termes qui sont utilisés très précisément, on va se rendre compte qu'il y a des mots qui reviennent, qui ont été choisis, j'espère que ça ne va pas, voilà, qui ont été choisis pour créer des échos à ce que vous avez déjà lu précédemment. Alors bien sûr, c'est comme je disais avec Pierre Sauvin tout à l'heure, comme il me disait, des fois ça fait du bien de lire les textes bibliques d'affilée, pas mal de chapitres d'un coup, parce qu'on se rend compte qu'il y a des mots, des expressions qui reviennent. Et même si pour nous, ce n'est pas habituel dans notre littérature moderne, en hébreu, c'est une des stratégies principales de la part des auteurs bibliques pour nous instiller de manière très très fine des messages. Alors regardons ça. Si je prends le récit du déluge, vous savez ce qui se passe, la terre se recouvre d'eau, et puis à un moment donné, les choses vont s'arrêter. C'est là qu'on va jeter un coup d'œil sur le texte. C'est donc Genèse au chapitre 8. Je lis juste le début. Donc, c'est la galère, C'est le cataclysme, tout est recouvert d'eau. Chapitre 8, verset 1. Dieu se souvint de Noé, de tous les animaux et de tout le bétail qui se trouvait avec lui dans l'arche. Et c'est le truc qui fait basculer toute l'histoire. Dieu se souvint de Noé. À partir de là, on a des expressions intéressantes et j'ai présenté ça en tableau progressivement pour qu'on voit les échos. Alors, si on regarde sur la diapo suivante, dans le récit de la création, je vais commencer d'abord par la droite, pour voir si vous voyez les échos, mais comme je les ai marqués, vous allez peut-être y penser en regardant à gauche. Puis, juste après ce que je viens de lire, Dieu fit passer un souffle sur les eaux, les sources de l'abîme et les fenêtres du ciel se fermèrent. Or, ces mots, l'abîme, le souffle de Dieu sur les eaux, c'est exactement ce qu'on avait au tout début de votre Bible, Genèse chapitre 1, verset 2. Il y avait des ténèbres au-dessus de l'abîme, et le souffle de Dieu tournoyait, reposait, ce qu'on veut, enfin tournoyait sur les eaux. Premier petit écho comme ça, l'abîme, on ne le mentionne pas tous les jours. Deuxième élément, on vous parle des fenêtres du ciel qui s'ouvrent. Les fenêtres du ciel, qu'est-ce que ça veut dire ? Métaphoriquement, dans une façon de se représenter les choses peut-être poétiques, ça fait écho à une conception selon laquelle il y aurait une sorte de firmament, peut-être de dôme, c'est pas très très clair, qui retient les eaux qui sont au-dessus. Et puis si on fait des sortes de trous comme des fenêtres, il y a l'eau, la pluie qui tombe. C'est sans doute une façon imagée de parler. Mais ça renvoie directement au firmament du ciel. Comme s'il y avait une sorte de voûte céleste qui, quand elle est ouverte, avec des fenêtres, parfois on dit les écluses dans l'Ancien Testament, il y a de l'eau qui coule, qui traverse. Donc c'est un écho supplémentaire. On peut continuer. Les sommets des montagnes apparurent, puisque l'eau est en train de descendre. Bon. Eh bien, c'était à peu près ce qu'on avait dans le premier texte, dans le premier chapitre de la Genèse, où on avait la terre ferme qui apparaissait, parce que Dieu avait justement ordonné que l'eau s'abaisse pour que les continents apparaissent. Ça continue. On vous mentionne plein d'animaux. Alors, il y a toute une série, c'est l'SPA. On a corbeaux, colombes, animaux, bétail, et puis, ce que vous préférez, les bestioles qui fourmillent sur la terre. C'est les rampants, là. Et puis, de la même manière, on avait les oiseaux, êtres vivants, bétail, bestioles qui fourmillent sur la terre, et puis les animaux sauvages qui étaient mentionnés au premier chapitre. On est en train de retrouver les mêmes acteurs qu'au premier chapitre. C'est bien pour ça qu'on les a mis dans l'Arche de Noé. Bon. On continue. On vous rappelle que l'homme est en image de Dieu. Le genre de choses qu'on ne dit pas tous les jours. Et c'était exactement ce qui était dit au chapitre 1, quand Dieu avait créé l'homme. On continue. Dieu bénit Noé et ses fils, et il leur dit, soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. Vous inspirerez de la crainte et de la terreur à tout animal. Mais en disant ça, à Noé et ses fils, Dieu répète quasiment, mot pour mot, ce qu'il avait dit à Adam et Ève. Dieu les bénit, Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la, dominez sur les animaux. Comme si c'était une sorte de nouveau départ, que Dieu recommençait ce qu'il avait fait avec Adam, mais cette fois-ci avec Noé. Il le bénit et il donne un petit peu les mêmes paroles. Et puis enfin, on se rend compte que des deux côtés, on attribue de la nourriture. On attribue la nourriture dans le chapitre 1, et on attribue la nourriture, l'homme qui mangera ceci, cela, dans le chapitre 8, 9, verset 3, pour Noé et ses fils, pour l'humanité. Vous voyez donc qu'il y a toute une série d'échos que l'on rencontre au moment où les eaux descendent, où les eaux reviennent à leur position sans doute normale après le déluge, des échos au chapitre 1 de la création. La fin du déluge est présentée comme une sorte de renouvellement de la création. Il faut comprendre qu'avant, tout ce travail méticuleux de la part du Seigneur, d'ordre, de différenciation des continents, des animaux, etc., avait été, en quelque sorte, anéanti, recouvert par le déluge. Et donc, cette fois-ci, on retrouve le processus inverse, on retrouve ce qui était là au départ. Alors, certains pensent que le déluge, c'était universel, d'autres que c'était local, dans tous les cas, c'est cette descriptive que nous avons. Donc, nous avons, c'est ce que j'ai mis sur la diapo initiale, d'un côté une création, et de l'autre côté, si je raccourcis énormément, une sorte de décréation. Dieu recouvre tout par l'eau, il annule en quelque sorte la création, et puis une recréation, renouvellement de la création si vous voulez, parce qu'il ramène les choses à leur statut initial. On retrouve les sommets des terres qui apparaissent, les mêmes animaux qui se retrouvent là, on redonne les mêmes paroles à l'homme que ce qui avait été donné au départ, on rétablit les choses telles qu'elles étaient à l'origine, juste après que Dieu ait ordonné tout cela. Ça va, vous suivez ? Juste un écho, comme ça. Alors, c'est sans doute pas de la fantaisie de la part de l'auteur. Alors, on continue. Pardon, si tu peux remonter. L'étape suivante consisterait à mettre en rapport ce qu'on trouve dans le jardin d'Éden et ce qu'on retrouve, en fait, à la fin du déluge. Je m'explique. À peine Noé a-t-il mis le pied hors de l'arche, si je puis dire, je simplifie, hein, qu'il se produit un incident un petit peu louche. Vous savez, c'est ce qu'on appelle le fameux épisode de l'ivresse de Noé. Alors, peut-être je le lis parce qu'on ne connaît pas par cœur et que c'est court. Je lis ça rapidement. Noé, donc je suis au chapitre 9 et disons à partir du verset 20. Noé se mit à cultiver le sol et planta une vigne. C'est pas très littéral. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et le raconta au dehors à ses deux frères. Alors Sam et Japhet prirent le manteau, le mirent tous deux sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent pas la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Il dit alors, « Maudit soit Canaan, qui soit l'esclave des esclaves pour ses frères. » Il dit encore, « Béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, que Canaan soit leur esclave, que Dieu mette Japhet au large, qu'il demeure dans les tentes de Sem et que Canaan soit leur esclave. » Et puis après, on tombe sur le fameux B et C de tout à l'heure. Bon, je ne reviens pas là-dessus. Épisode un petit peu sombre, un petit peu étonnant, cette histoire de nudité de Noé. La morale, c'est qu'il ne faut pas boire en s'enivrant, d'accord ? Mais en fait, c'est un peu plus subtil que ça. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, ce soir, c'est qu'on retrouve encore une fois des échos à un épisode précédent. En effet, si on regarde de près, Noé devint, alors on dit agriculteur, cultivateur, il se mit à cultiver le sol. Littéralement, ce que nous dit le texte, c'est que Noé devint un homme de la terre. De la même manière que Adam a été présenté comme un, alors littéralement, un terrien. Vous savez, Adam, ça veut, c'est le nom d'Adam, ça veut aussi dire homme. Et puis on sait qu'il a été tiré du sol, et je ne fais pas beaucoup d'hébreu, hein, mais le sol, en fait, on dit Adama. Donc il y a un jeu de mots. Certains traduisent, Chouraki traduit le glébeux. Ouais, bah c'est ça l'être humain, en fait. Hein, voilà. Et puis tu es poussière, tu retourneras la poussière, d'ailleurs. Hein. Bon. Dieu façonna le terrien de la poussière de la terre. De la même manière, Noé est un homme de la terre. Deuxième chose qu'on peut noter, c'est un parallèle léger, hein, mais Noé planta une vigne de la manière que Dieu avait planté un jardin. On se retrouve un peu dans un contexte comme ça, agricole ou des choses de la terre, on va dire. Vous voyez que je ne connais rien à tout ce qui est agriculture. Puis, on a un problème avec la consommation. Vous vous rappelez qu'on avait pris du fruit, on ne sait pas lequel c'est, hein, et qu'on avait mangé, ça a causé des problèmes. De la même manière ici, Noé boit quelque chose avec de mauvaises conséquences. Je ne suis pas en train de dire que le fruit au départ c'était du raisin. Personne n'a dit jusque-là, mais bon. On continue. Dans les deux cas, vous avez compris que c'est la nudité qui pose problème. Le problème ici, c'est que Noé se retrouve à poil, pour dire les choses franchement, et puis il y a un de ses fils qui ne se gêne pas de regarder. Il y en a même qui pensent qu'il y a des choses plus louches derrière, mais bon, le texte quoi, est assez sobre, heureusement. Bon. Et c'est le même problème qu'on avait pour Adam et Ève, la nudité. Ouais, c'est tout un tissu de petits réseaux par petites touches, hein. C'est très subtil, d'écho avec le récit de la chute. Je continue. Ça, c'est frappant. Sem et Japhet vont recouvrir d'un manteau, oh, ils y vont à reculons, leur père pour ne pas voir la nudité. Mais vous rappelez, de la même manière, Dieu avait donné à Adam et Ève des sortes d'habits de... des pannes, des habits de fourrure, pour recouvrir leur nudité. Et encore un écho, un point commun. Et puis, je crois qu'il y a encore un point, deux points même. La formulation même du moment où les gens s'éveillent au problème fondamental qu'ils sont en train de vivre est ressemblante. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il connut, littéralement, hein, ce que lui avait fait son fils cadet. Et puis, dans la Genèse, vous savez, le serpent avait dit « Allez, vos yeux s'ouvriront, vous verrez que vous êtes... » que vous êtes connaîtrez que vous êtes des dieux, comme des dieux. Puis le jour où ils consomment du fruit, le texte dit, leurs yeux s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient comme des dieux, ils étaient nus. C'est une sorte d'ironie dans le texte. Et vous voyez, c'est la même formulation, ils connurent que, ils se réveillent, ils ouvrent les yeux et ils connurent que. Puis dernier point, on a une malédiction avec une sorte d'écho. On n'avait qu'un qui est maudit et cette fois-ci, c'est Canaan. Bref, par petites touches très fines, l'auteur de la Genèse au chapitre 9 crée des échos avec ce qu'il y avait eu au chapitre 3 et même, si on réfléchit bien, au chapitre 4, puisqu'on se retrouve à nouveau avec un problème entre les frères. Et à nouveau, Canaan, ça sonne un peu pareil, un fils qui est maudit. Vous voyez un petit peu comme ça ? On a des échos, mais d'une pierre deux coups. Le chapitre 9 renvoie au chapitre 3, la chute, Adam et Ève qui pêchent, qui sont sanctionnés. Et en même temps, on débouche aussitôt, on a un écho aussitôt après, même en même temps, avec ce problème entre les frères. À tel point qu'il y a une malédiction et un rapport terrible qui est envisagé entre ces frères. Et je dis au passage qu'il ne faut pas, comme certains ont cru, croire qu'on a là une justification de l'esclavage. C'est ridicule. Mais bon, ça n'empêche pas certaines lectures délirantes de s'être produites dans l'histoire. Mais vous voyez comme ça qu'il y a encore des échos, ce que j'ai représenté sur la diapo suivante, s'il te plaît. On avait un premier homme, puis un premier péché, et puis la génération suivante, un problème entre des frères. Vous vous rappelez Cain et Abel. Hein. Cette fois-ci, on a une sorte de nouveau premier homme, Noé, auquel Dieu donne les mêmes prérogatives, il le bénit, on rappelle qu'il est en image de Dieu, on lui donne le même ordre, multipliez-vous, etc. C'est un nouveau premier homme, on recommence après avoir renouvelé la création, mais aussitôt après ça, on retombe sur un nouveau premier péché, si je puis dire, juste après le déluge, qui débouche presque immédiatement sur un nouveau problème entre des frères. Vous voyez comme ça les échos qui sont en train de se mettre en place. Et encore une fois, c'est vraiment pas un hasard. On peut continuer. Là, c'est relativement simple, donc je n'ai pas mis de tableau. Je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à ça, mais vous avez deux épisodes qui parlent des trois fils du premier homme. À gauche, je vous ai bien ennuyé ce matin, avec Genèse 4, où on a une généalogie, on montre les développements de l'humanité à partir des trois fils d'Adam. Bon, le premier, il ne fait pas grand-chose parce qu'il est mort. Mais les autres, les fils de Cain, par exemple, les fils de Seth, vont inventer des choses intéressantes. Du côté des fils de Cain, on a la métallurgie, la musique, sympathique quand même. Et du côté de Seth, c'est quoi l'invention déjà ? Fin du chapitre 4 ? La prière. C'est à partir de là qu'on commence à invoquer le nom du Seigneur. De façon de dire, de prier le Seigneur. Bon, si je comprends bien le texte. Mais en fait, à chaque fois que je... Comme je t'ai habitué à... C'est bien, merci. De la même manière que ainsi l'humanité se déploie, se développe à partir des trois fils d'Adam, le premier homme, en face, on a le nouveau premier homme, Noé, dont les trois fils, le texte est explicite sur ce sujet, repeuplent la terre. C'est à partir des trois fils de Noé que la terre fut repeuplée. Et on vous décrit même par le menu les peuples, les régions qui vont être occupées. On peut représenter ça, ça fait une belle carte qui recouvre tout le pourtour méditerranéen. Donc des deux côtés, vous avez cette correspondance. Les trois fils qui commencent à... Et ce qui est marrant, c'est que des deux côtés, on vous mentionne une sorte, une ville qui a l'importance. On vous dit ça au chapitre 4, au sujet de Cain, hein, il est condamné à être nomade, mais il y a quand même la création d'une cité. Et puis, au chapitre 11, c'est le fameux épisode de la tour de Babel. Alors, tout le monde croit, enfin, beaucoup de gens croient que c'est l'épisode de la tour de Babel uniquement. Si vous lisez bien le texte, vous verrez qu'il commence à construire la ville de Babylone. Hein. Donc, des deux côtés, comme ça, on a une sorte de plus avec création d'une ville. Ça fait encore des parallèles. Je poursuis. Là, c'est assez direct, le parallèle, on ne peut pas le manquer si on lit les généalogies. Mais on les lit, nous, bien sûr. Entre le chapitre 5 et le chapitre 11, on a deux généalogies qui suivent un schéma très proche l'une de l'autre. Vous vous rappelez le schéma ABC ? Ça, c'est de ce côté Genèse 5. Et puis, vous vous rappelez le schéma ABAB, je l'avais montré très vite ? On n'avait pas tout lu ? C'est ce qu'on trouve de l'autre côté au chapitre 11. Je ne sais pas pourquoi ils ne mettent pas le total, pourquoi ils ne mettent pas le C de l'autre côté. Peut-être que c'est pour nous dire qu'il ne faut pas prendre les chiffres littéralement, on pourrait discuter. En tout cas, ça se fait écho d'une manière évidente. C'est des textes de même nature, des généalogies, qui suivent des schémas étroitement proches. Donc, c'est un parallèle qu'on ne peut pas rater entre ces deux côtés. Ça va, vous voyez à peu près tout ça ? Il reste une chose, parce que je l'ai mis comme ça, c'est la crise. Bah, pas la crise économique, tout ça, évidemment. La crise des fils de Dieu. Ça, c'est cet épisode un petit peu étrange, qui fascine les gens, qui est difficile à comprendre. Ce qu'on comprend, c'est que c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase pour le Seigneur. Ce qui amène le déluge. C'est une mauvaise blague, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Ça fait rigoler Marion, hein, vous avez vu, hein ? Donc, bon. C'était un rire. Donc, bon. On a ce qu'on peut avec les blagues qu'on peut. J'essaierai d'en faire des meilleures plus tard. Bref. Mais vous voyez comme ça qu'à part la crise dont je vais parler plus tard, vous avez une série de correspondances, point par point, entre les épisodes qui vont de la création jusqu'à la généalogie d'Adam, d'un côté, et les épisodes qui vont du déluge jusqu'à la généalogie de Sem, de l'autre. Ça va, vous m'avez suivi ? Vous n'êtes pas perdu ? Bon, Marion, bon, enfin, bref, il y en a qui ne sont pas perdus là. Victime. Alors, vous avez donc ça. Mais alors, à quoi ça sert ? Pourquoi avoir fait en sorte qu'on retrouve les mêmes étapes comme ça ? Et ensuite, pourquoi est-ce qu'on n'a pas de parallèle pour la crise ? Eh bien, nous allons parler de ça après une page de publicité. En effet, je me suis dit que j'allais vous montrer quelques images pour vous changer les idées. Puis après, on se remet à réfléchir. Comme je vous fais quand même beaucoup observer le texte, la page de publicité, c'est juste pour vous montrer ce à quoi pouvait ressembler la tour de Babel. Et ça, c'est pas la tour de Babel, mais c'est la même chose à Ur. Ur, la ville de Abraham. Hein. Voilà ce qu'on a retrouvé à Ur. Bon, c'est ma page de publicité, quelques petites images locales. On a une sorte de presque pyramide. C'était ce qu'on appelait des tours à étages, des ziggourats, si vous voulez le terme de l'époque. C'est pas ma faute, ça s'appelait comme ça. Et vous voyez qu'il y avait un escalier très impressionnant. Ces tours-là, en fait, on disait qu'elles étaient en quelque sorte une manière de s'approcher du ciel. C'était une façon d'aller vers un temple qui se trouvait un peu comme un gratte-ciel, si vous voulez, plus proche des dieux. Ça, c'est ce qu'on a retrouvé à Ur. C'est un type de tour, on en a une trentaine en Mésopotamie. Qu'est-ce qu'on a retrouvé à Babylone ? Image suivante. Voilà une maquette de ce à quoi a pu ressembler la tour de Babylone dans sa plus belle époque. Voilà le genre de choses. Et vous savez comment ça s'appelait ? Ça s'appelait la maison du fondement du ciel et de la terre. Donc quand le texte de la Genèse nous dit que les hommes veulent créer une tour dont le sommet touchera le ciel, et qu'on comprend qu'en fait ils se prennent pour presque des dieux, ils veulent atteindre le ciel, en fait c'est assez littéral. C'est vraiment ce genre de conception qu'il y avait en Mésopotamie. Il y avait des tours comme ça avec un escalier monumental qu'il fallait monter, qui sans doute évoquait une sorte d'escalier entre le ciel et la terre. Et je vous ai même mis peut-être des images de ce qu'on a retrouvé des fondations de la tour de Babel. Vous savez pourquoi on n'a retrouvé que les fondations ? Parce que, oui, bon, question très intelligente, réponse très intelligente, parce qu'elle a été détruite. En fait, elle a été détruite, reconstruite plusieurs fois. Et puis, vous savez que vers 330, Alexandre le Grand est rentré dans Babylone. Vous avez peut-être vu le film Alexandre. Bon, il rentre dans Babylone, hein, ça, victorieux, bien accueilli. Il veut reconstruire la tour de Babel. Donc, il s'est dit, je vais commencer d'abord, parce qu'elle était sans doute dans un sale état, par la déblayer, et puis il est mort. Ce qui fait qu'on s'arrêtait à l'état de déblayage. Et autant il voulait reconstruire le faste de la tour de Babel, autant à cause de lui, on n'avait plus que les fondations. C'est la vie. Réfléchissez-y dans vos projets. Détruire avant de construire. Mais voilà, ce qui est intéressant, c'est qu'on trouve une base carrée. Alors que souvent, les peintres la représentent de manière circulaire, voire ellipsoïdale ou quelque chose comme ça. Fin de la page de publicité, pour vous montrer quelques images. Maintenant, on réfléchit à nouveau. Alors, vous vous rappelez, on a toutes ces séries de parallèles. Ce qui est marrant, c'est qu'on peut les regrouper en trois grandes étapes. Première étape, on pose les choses. Création, premier homme auquel on donne des prérogatives. Bon, il est en image de Dieu, il doit se multiplier, remplir la terre et dominer sur les animaux. Ok. Nouveau premier homme à droite, Noé. D'abord, il y a un renouvellement de la création. Un nouveau premier homme auquel on donne les mêmes prérogatives. Ça va ? On pose les choses, on pose le cadre de chaque côté. Bon. Deuxième grande étape de part et d'autre, les problèmes arrivent. Les premiers péchés se produisent de part et d'autre. C'est ce que j'ai entouré en rouge en deuxième partie. Et la troisième partie, en fait, tout ça, c'est le développement de l'humanité. Vous avez les trois fils du premier homme qui donnent l'humanité qui va se développer, se déployer, et une ville qui symbolise première grande construction, et ces fameuses généalogies avec les étapes ABC ou AB qui nous font avancer à travers le temps. Ça, c'est le développement de l'humanité. Donc, trois grandes étapes. Création du monde et de l'homme, on pose le cadre. Problème, mais néanmoins, on n'a pas tout qui est détruit, hein, on a un développement de l'humanité. Ça va, vous suivez ? C'est trois grandes étapes, c'est comme ça, c'est représenté, des deux côtés. Ce qui est marrant, c'est que cette façon de se représenter les choses, avec deux grands mouvements séparés par, finalement, la césure, c'est le déluge, où on a une création, des problèmes, en même temps l'humanité qui se développe, c'est quelque chose qui était connu dans l'Orient ancien. Et je suis prêt à, alors comme j'ai toujours, peut-être pas à couper ma main, mais celle de Marion, par exemple, ou de Johan, ou je sais pas, que l'auteur de la Genèse a voulu donner au peuple hébreu une contrepartie inspirée, juste, réelle, des grands récits qu'ils avaient en Mésopotamie sur les origines de l'humanité, etc. Si on regarde en effet un comparatif avec les textes de ce type-là, on s'aperçoit qu'il y a une structure similaire. Alors ces textes, c'est quoi ? Ben, c'est d'un côté quelque chose qui date peut-être de 2000 avant Jésus-Christ, la liste royale sumérienne, les listes de rois, etc. De l'autre côté, l'épopée d'Atrahasis, qui date peut-être de 1600 avant Jésus-Christ, quelque chose comme ça. On a une grande épopée historique, on vous raconte un peu les origines de l'humanité, etc. Et même le déluge, le même récit du déluge. Si on compare avec ça, on obtient le tableau suivant. Je compare que les premières grandes étapes. Dans l'épopée d'Atrahasis, on vous dit que l'homme est créé, j'aurais dû vous poser la question avant de le montrer, pour faire le travail des dieux. Parce que les dieux, mais c'est comme ça dans Mésopotamie, hein, quand on représente des choses, les dieux sont fatigués de toujours avoir à chercher leur nourriture, à faire l'agriculture, etc. Bon, c'est une vision un peu particulière des dieux, mais bon. Les mythes grecs, c'est pas beaucoup mieux. Hein. Bon. Donc ils créent les hommes pour faire leur boulot. Et pendant un certain temps, ça marche. Mais au bout d'un moment, les dieux en ont marre. Parce qu'en faisant leur travail, les hommes font du bruit. C'est un petit peu comme vous avez un bébé derrière dans la voiture qui crie pendant des heures, tout ça, ou le soir. C'est mignon, hein, notre création, mais bon, voilà. Mais non ! Non, mais bon, vous verrez, hein, ceux qui n'ont pas déjà vu. Et puis, les dieux sont quand même un peu plus trash que des parents normaux, parce que à cause de ce problème, ils trouvent une solution toute faite qui est d'envoyer le déluge. Bon, on va les noyer pour le coup, ouais, tant pis. Nos gouvernements sont quand même gentils hein, par rapport à ça, hein, quand on fait des manifs, bon. Ouais. Et à partir de là, il y a quand même un homme auquel qu'un dieu va mettre dans la confidence en disant « fais-toi un bateau et tout, parce que les autres, ils vont envoyer le déluge ». Et puis finalement, lui, il est sauvé, et à partir de là, on a un nouveau départ pour l'humanité. Vous voyez ce schéma très simple, hein ? Création, on pose les choses, il y a un problème, déluge, et puis on recommence. Et puis on a la fameuse liste royale sumérienne que je vous ai montrée à gauche, l'image précédente, où on a, et c'est très marrant, une liste de rois. Et quand vous lisez ça, ça ressemble étrangement aux généalogies. Pas seulement à cause des noms qui sont alambiqués, mais vraiment du côté mésopotamien, mais aussi à cause des durées. Parce que autant nos patriarches vivent 900 ans, etc., peut-être pas à prendre littéralement, mais en tout cas, c'est décrit comme ça, c'est présenté comme ça. Et autant en Mésopotamie, les durées de règne, il y en a, c'est 36 000 ans, 1200 ans, etc. Donc, on ne peut pas se plaindre avec nos quinquennats, parce que franchement, ouais. Je fais toujours les mêmes blagues, mais je suis désolé. Et bon, c'est comme ça, il y en a 10 étapes, comme dans la première généalogie, chapitre 5. Puis on a le déluge, et puis on recommence une nouvelle liste de rois. C'est à peu près la même structure, la césure fondamentale, c'est le déluge, mais avant, comme après, on a des sortes de généalogies. Et bien dans la Bible, vous retrouvez tout ça, mais en mieux, bien sûr. Vous avez la création de l'homme, non pas pour faire le boulot de Dieu, qui n'a pas besoin qu'on lui remplisse son frigo, mais pour servir et garder le jardin. C'est quand même pour travailler, hein, au passage. Le travail, ce n'est pas une malédiction au départ. Puis on a notre fameuse généalogie en 10 étapes, Genèse 5. Dieu est irrité par le péché des hommes, pas parce qu'ils font du bruit. Le déluge, pour une bonne raison cette fois-ci. Et puis un nouveau départ avec une nouvelle généalogie, chapitre 11. Bref, dans la Genèse, on vous présente une version inspirée et juste de ce que les autres peuples savaient confusément et présenté de manière très très approximative. Ça va, vous voyez ? Alors, je reviens sur mon problème. Ah, pardon, il faut revenir en arrière, s'il te plaît. Voilà. Qu'est-ce qui se passe là ? On a un parallèle étroit entre les deux parties. En même temps, on a quelque chose qui manque. La crise. Tant mieux, c'est marrant. Qu'est-ce qu'on a à la place de la crise, d'ailleurs, dans le texte biblique ? L'appel d'Abraham. Alors, quel peut bien être le sens d'avoir montré que les choses se reproduisaient de telle manière. En fait, je crois que c'est un exercice de pédagogie de la part de Dieu. Si on regarde les choses, la big picture, hein, comme je dis. D'un côté, Dieu a créé le monde et l'homme qui pêche. Dès le premier homme, on a un péché. Mais dans sa grâce, Dieu permet que l'humanité continue de se développer. Hein, Dieu est tellement délicat qu'il va même faire des sortes de manteaux de fourrure pour Adam et Ève, alors qu'ils viennent de l'insulter, hein, en lui désobéissant de manière claire et nette. L'humanité se développe, mais le péché est là. Les choses s'enveniment. On arrive même à des trucs vraiment tordus avec l'histoire des fils de Dieu, quelle que soit l'interprétation. Et là, l'homme, Dieu fait un constat, l'homme, c'est pas possible. Il fait que du mal, du matin au soir, son cœur est dévoué à ça, en quelque sorte. Je vais anéantir l'humanité. Normalement, l'histoire aurait dû s'arrêter là. Alors, je cite toujours deux grands philosophes à cette occasion. Le premier, c'est Émile Cioran, un philosophe français, vous savez ? Non. Non, bon, c'est pas grave. Qui disait, il raisonnait souvent, il écrivait en termes d'aphorismes, vous savez, des petits proverbes, des petits préceptes comme ça. Puis il disait, ben, si Noé avait su lire l'histoire, lire le sens de l'histoire, il se serait sabordé. C'est-à-dire qu'il aurait fait couler son arche parce que de toute façon, c'est foutu l'humanité. Et le deuxième philosophe que je cite, c'est un philosophe américain, fin 20e siècle, il est encore vivant, Bruce Willis, non, qui dans une interview s'était vu poser la question suivante. Vous en avez pas marre, avec Piège de cristal et compagnie, de jouer les super-héros qui sauvent la planète ? Et puis il avait dit, j'avais bien aimé sa réponse en fait. Il dit, ben, vous savez, si j'avais l'appareil, le bouton pour faire exploser la bombe atomique et faire disparaître la Terre, ben j'appuierai. Ça fait réfléchir, hein, parce que vu tout le mal qui se passe sur cette planète, c'est pas... Bon. Heureusement, Dieu n'a pas raisonné comme Bruce Willis, ni comme Émile Cioran. Il a voulu que les choses recommencent. Malgré cette première étape qui est un échec fondamental, l'humanité qui est tellement vouée au mal, qui pense au mal du matin au soir, qui le commet, le jugement du déluge, ben, ce n'est pas le point final. Dieu veut recommencer avec l'humanité. C'est ce qui nous vaut la partie de droite. Et pour cela, il va falloir prendre un homme. Cet homme, c'est Noé. Dieu dit, je vais prendre un homme, le texte nous dit que Noé était un juste, sans doute quelqu'un de très bien dans sa génération. Il prend un homme et il recommence. Il le prend comme une sorte de nouvel Adam. C'est le plan B. Un peu comme moi ce soir. Bon. Et une fois qu'il l'a pris, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on a une superbe réussite? Ben, cette fois-ci, ça marche. Mais tout le texte, tous ces parallèles sont là pour vous montrer que non. Les mêmes choses se reproduisent. À peine on est sorti de l'arche, on pose le pied sur terre, on plante une vigne, etc., on s'enivre, et à nouveau on retombe dans des choses un petit peu sordides, avec la nudité de Noé, ses fils, etc. On retombe dans le péché, ça va s'envenimer, les gens vont commencer à avoir la folie des grandeurs avec la tour de Babel, l'humanité se développe, et le péché aussi. Alors à quoi ça sert de nous montrer ça? Pourquoi nous mettre en évidence des parallèles comme ça qui suggèrent un tel échec? Et précisément, c'est la pédagogie de l'échec. Le Seigneur nous montre la chose suivante. Le monde est pourri. Ok, on va recommencer. On envoie le déluge. On prend le meilleur type possible. Un type bien. Mère Teresa en homme. Je sais pas. Et on va recommencer l'humanité avec lui. Peut-être que ça va se passer beaucoup mieux. Ça va être super. Et bien le résultat, on l'a sous les yeux. Ça recommence de plus belle. Leçon fondamentale qu'on a dès le début de la Genèse. L'homme ne peut pas se sauver lui-même. Prenez le meilleur type de la planète, enlevez tout le reste, recommencez, le péché recommencera. C'est terrible parce que ça veut dire que Noé et sa famille, ils ont survécu au cataclysme physique. Tout a été détruit, mais la seule chose qui causait vraiment problème, Noé l'a transporté en lui-même, comme un virus, dans l'arche, le virus du péché. Vous avez donc, dès ces premiers chapitres de la Bible, la notion fondamentale dans tout le reste de l'Écriture, selon laquelle on peut être sauvé physiquement, l'important c'est l'intérieur, c'est le problème intérieur, et finalement c'est ça qu'il faut soigner. C'est ça qu'il faut soigner, à tel point que, si vous n'êtes pas d'accord, eh bien on essaye, Dieu a essayé, pour nous montrer que ça ne marche pas. Et l'auteur biblique avait tellement bien discerné cette vérité, qu'il nous a mis des petites touches à chaque étape, pour qu'on se rappelle des étapes précédentes, qu'on fasse le lien et qu'on voit qu'il y a une progression similaire. Alors là, on est encore dans la déprime, hein, je suis d'accord, hein, on n'est pas encore de l'espoir. Bon, mais vous voyez un petit peu comment ça fonctionne. Mais, alors, on peut rester sur ce truc-là. Mais alors, est-ce que ça s'arrête là? Je vous ai dit, il y a une anomalie. En face de la crise, le summum du péché, hein, on n'a rien. Et vous m'avez dit, à la place, on a l'appel d'Abraham. Dieu choisit de ne pas envoyer le jugement alors qu'on aurait cru qu'avec la même progression, on allait déboucher sur un paroxysme, une crise et un jugement comme le déluge. Et cette fois-ci, pour de bon. Parce que si on essaye le meilleur type possible et que ça ne donne rien, bah autant tout arrêter. Bruce Willis l'aurait fait. Bon. Dieu choisit l'appel d'Abraham. En fait, en nous présentant toute cette histoire d'un sauvetage qui marche presque, qui marche physiquement, mais qui ne marche pas à l'intérieur, avec pourtant un nouvel Adam, un nouveau premier homme, on a en creux ce qu'il nous faudrait. Qu'est-ce qu'il nous faudrait pour qu'on s'en sorte? Que Dieu puisse recommencer avec un homme qui, lui, ne pêche pas. Le seul truc qui a manqué dans cette histoire, c'est un nouvel Adam, mais qui n'est pas de péché en lui, qui ne transporte pas avec lui, en lui, le virus du péché. Un leader pour l'humanité, qui n'est pas ce problème en lui-même, qui y échappe. Vous avez donc en creux, ici, la nécessité d'avoir un homme avec qui ça puisse marcher. Sinon, pour commencer avec Abraham, avec qui ce qu'on veut, avec qui on veut, ça ne pourra que échouer. Eh bien justement, avec Abraham, nous n'avons pas notre nouvel Adam. On a essayé avec Adam, on a essayé avec Noé, maintenant c'est Abraham. Peut-être que ça pourrait marcher. Eh bien non, c'est pas Abraham. Comme vous le savez très bien, l'histoire d'Abraham, c'est qu'un début. Celui qui sera le nouvel Adam, vous savez bien que ça sera un descendant très lointain d'Abraham. Parce que, rappelez-vous, le Seigneur est un super Kasparov qui résonne à 100 générations à l'avance. Et que quand il met Abraham en place, il a en tête, 100 coups plus loin, quand son descendant Jésus, lui, sera le nouvel Adam, qui, contrairement à Noé, n'aura pas le problème du péché, et qui pourra être le chef d'une nouvelle humanité. Nouvelle humanité qu'il ne faudra pas seulement sauver du déluge physique, sauver d'un jugement physique, mais sauver à l'intérieur. Il va falloir régler le problème interne, en fait. Ça va, vous suivez? Vous voyez comme ça cette logique? Ça, c'est déjà en creux ce qu'on a en attente dans Genèse 1 à 11. Dans le Nouveau Testament, vous savez bien que les auteurs bibliques ne vont pas manquer l'occasion de reprendre ces thèmes en disant « Mais oui, nous avons notre nouvel Adam ». Romains chapitre 5, l'apôtre Paul dresse un parallèle étroit entre Adam d'un côté et le nouvel Adam, c'est ce qu'il dit, qui est Jésus-Christ, et qui, de la même manière que le premier Adam avait amené la mort dans le monde par le péché, lui va apporter la vie et la solution du problème. Ce parallèle entre un premier Adam qui n'a pas marché et un nouvel Adam qui marche, c'était déjà ce qu'on attendait dans la Genèse. Et on avait même essayé de voir si en prenant un nouvel Adam, pas parfait mais presque, Noé, ça pourrait marcher, ça ne marche pas. Il nous faut un homme parfait qui puisse nous servir de leader, de nouvel Adam pour l'humanité. Ça, c'est le premier enseignement. Alors, je pense qu'on peut maintenant avancer dans les diapos pour voir les quelques enseignements que je voulais vous résumer. Premier enseignement, le nouveau départ qui avait été pris avec Noé, c'est raté. Ça ne marche pas. Nouvelle chance a été laissée à l'humanité, mais le péché est toujours là. Deuxième chose à noter, le jugement qu'on aurait attendu après ma deuxième colonne, puisque les mêmes effets produisent les mêmes causes, vous savez, en face de la crise, il n'y a rien. Il n'y a pas de crise, il n'y a pas de jugement. Tout ça, c'est ajourné. Si vous connaissez votre Bible, vous savez que on attend encore un jugement. Jésus a commandé encore un jugement. Il venait prévenir les gens de cela. Ce jugement est ajourné pour bien longtemps plus tard. Il n'est pas oublié par Dieu, qui exercera sa justice, mais il est reporté. La structure suggérait donc l'attente d'une crise, d'un jugement parallèle au déluge, comme je disais, mais à la place, Dieu appelle Abraham, il repousse, il ajourne les choses pour longtemps. Puis troisième point, en creux, nous avons déjà des notions importantes sur la rédemption, le salut, la manière dont Dieu va apporter le salut. Le premier élément, c'est que pour la première fois dans la Bible, très très tôt, la rédemption, que l'on voit dans le récit du déluge, Dieu sauve Noé, il souffle sur l'eau, il se souvient de Noé, il souffle sur l'eau, il fait se résorber la crue. Eh bien, cela s'est présenté comme un renouvellement de la création. C'est la première fois dans la Bible, première grande entreprise de sauvetage de la part de Dieu, et c'est la première fois dans la Bible qu'on vous présente le salut apporté par Dieu, sa rédemption, comme une forme de nouvelle création, de renouvellement de la création. Et vous savez que ça va se retrouver plus loin dans la Bible. Pensez tous à Ésaïe 65, bien sûr. Je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Hein? Avant que ce soit dans l'Apocalypse, etc., c'est dans Ésaïe, un espoir qui était relayé par l'un des plus grands prophètes. Un jour, Dieu recréera les choses. Les problèmes ne sont pas encore résolus. Il va falloir un salut, et ce salut, ça sera une forme de nouvelle création. Et vous savez qu'on retrouve ça dans l'Apocalypse, et que nous attendons les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Eh bien, cette notion d'un salut qui correspond à une nouvelle création, elle est déjà en germe ici. Mais attention, si on s'arrête là, on n'a pas tout dit. Dans le Nouveau Testament, ce n'est pas seulement le ciel et la terre qui vont être changés. Parce que si c'est le cas, Et si on se contente de ça, ça veut dire qu'on n'a rien compris à la leçon que j'ai essayé de vous montrer ce soir. La leçon du texte, selon laquelle le vrai problème, c'est pas le ciel, c'est pas la terre, c'est pas les montagnes, c'est pas l'eau. C'est le cœur de l'homme. C'est ça qu'il faut changer. Et c'est justement pour ça que Paul vous dit, dans 2 Corinthiens, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. C'est ça la résolution du problème qui était encore en suspens dans le récit de Noé. On avait besoin que l'intérieur soit changé. Sinon, on pouvait tout repeindre, ça ne sert à rien. Ça ne changera pas le problème, le péché va se renouveler. C'est très important, et c'est d'autant plus important de montrer, d'exprimer le salut en termes de création, que cette façon de parler du salut nous montre bien qu'on ne peut rien faire nous-mêmes. Si vous êtes recréé par le Seigneur, c'est que vous êtes sauvé entièrement en étant dépendant de lui. Vous ne pouvez rien faire pour votre salut. La création, c'est une catégorie, pour parler du salut, qui exprime de manière sublime le fait qu'on est, dans un sens, mis à part la foi, totalement passif. Nous sommes recréés par le Seigneur lui-même, on ne peut pas se sauver nous-mêmes. Élément suivant, il faut un nouvel Adam, un vrai nouvel Adam, je le dis et redis. Et puis mon dernier point, donc, Abraham est-il le nouvel Adam ? Non, il est son ancêtre, et c'est bien pour ça que les généalogies sont importantes. C'est bien pour ça qu'il fallait un fil rouge en termes de généalogie qui puisse être repris dans le Nouveau Testament et où on vous montre que Christ, l'envoyé de Dieu, le Messie, c'est un homme. Et c'est un homme qui est même un descendant d'Abraham et même d'Adam. Dieu prend le problème là où il se trouve et de manière, on n'aurait jamais imaginé ça, il fait en sorte que c'est un homme qui soit la solution du problème. On ne réalise pas assez à quel point ce n'est pas que Dieu qui nous sauve, c'est un homme qui nous sauve. Les deux à la fois, c'est Dieu et c'est un homme. Mais c'est un homme. Dieu a voulu que ce soit de la manière la plus littérale possible un nouvel Adam, un homme qui nous sauve de notre péché. Et c'est encore un homme qui est au ciel, qui est le Fils de Dieu. C'est Dieu et c'est un homme. Vous voyez donc, avec tout cela, on a déjà en creux dans Genèse 1 à 11 tout ce dont on a besoin pour le salut. Et je n'ai pas pu résister à vous montrer que dans le Nouveau Testament, eh bien, on a ce qui va remplir ce creux-là. On a ce qui va donner la solution à tous ces problèmes. Mais dès le début de la Bible, comme dans l'ouverture d'un opéra de Wagner, vous avez déjà tous ces premiers thèmes. Et je conclue en disant que ce nouvel Adam, il va revivre des choses, faire des choses sur lesquelles Adam a échoué. Dieu lui avait donné des ordres à Adam, il lui avait donné un commandement, il ne fallait pas manger d'un arbre. L'homme a désobéi à Dieu. Pourtant, il y a une sorte d'alliance, presque de contrat entre les deux. Eh bien, Jésus, lui, ne va pas faillir à cela. Jamais il ne va pécher. Il va respecter l'alliance, et non seulement il va respecter l'alliance, mais il va en présenter une nouvelle. L'homme, Adam, le premier, a été expulsé du Jardin d'Éden. Dans le Nouveau Testament, avec Jésus, on revient au méga Jardin d'Éden, qui est la Jérusalem finale, ce que vous lisez dans la fin de l'Apocalypse. Et c'est pour ça qu'il y a tant de ressemblances entre le début de la Genèse et la fin de l'Apocalypse. La boucle est bouclée. Avec le nouvel Adam, nous rentrons dans le Jardin d'Éden, qui est en quelque sorte sublimé dans la présence de Dieu. Voilà. Amen.
Donc merci à Mathieu. Bonsoir à tous.